français, les grandes gueules.
Monsieur Ciotti, bonjour.
Bonjour.
C'était quoi? C'était le mauvais temps? C'était le retard des navettes? C'était quoi en fait?
Une petite perturbation liée au trafic aérien. Une petite grève perlée manifestement.
Ah, c'est les grèves du zèle du contrôleur aérien, c'est ça?
Absolument.
Ah, on en a parlé cet été dans les GG. Ils n'ont pas été déçus du voyage, les contrôleurs aériens. Je rappelle, vous êtes député des Alpes-Maritimes. Vous êtes président du Conseil Général des Alpes-Maritimes. Certains vous présentent comme le monsieur sécurité de l'UMP. Donc vous êtes devenu le méchant de l'UMP quoi en fait.
Je ne pense pas devoir assumer ce rôle de méchant, mais c'est vrai que je suis responsable des questions de sécurité à l'UMP, aux côtés de Xavier Bertrand. C'est une mission importante. Mmh. La sécurité, c'est la première des libertés. C'est aussi un point essentiel du mandat que nous ont confié les Français, que ce soit en 2002 ou en 2007. Donc c'est au sein de notre mouvement une fonction importante, mais qui se distingue, je le dis très clairement, de ce rôle de méchant. La sécurité, c'est l'alliance de différents sujets qui vont de la prévention à, c'est vrai, la sanction. Il faut pas oser.
La répression, oui.
Il faut pas.
On a l'impression que vous êtes uniquement sur la répression en ce moment du côté de l'UMP.
Je voudrais essayer de vous démontrer le contraire. Et en tant qu'élu local, en tant que président du Conseil général, au contraire des Alpes-Maritimes, je conduis une politique qui se base beaucoup sur la prévention. Pour moi, dans notre société, il doit y avoir un équilibre essentiel entre droits et devoirs. Chaque citoyen a des droits et c'est notre chance. On est dans une démocratie, un beau pays de liberté, mais en même temps on doit avoir des devoirs et c'est ce que je m'efforce de faire sur le terrain, loin des débats idéologiques, loin des polémiques, loin des donneurs de leçons. Alors, qui, je crois, ne vivent pas dans le monde réel que connaissent les Français.
Justement, vous dites depuis 2002, donc on a l'impression qu'avec, depuis 2002, 17 lois qui ont été votés par le Parlement en ce qui concerne la justice et l'insécurité, avec en septembre prochain d'ailleurs la présentation encore de la loi sur la sécurité, avec l'éventuelle déchéance de la nationalité pour un étranger, avec éventuellement des parents d'enfants multirécidivistes qui seraient sanctionnés, voire qui iraient en prison. Éric Ciotti, soit vous avez complètement échoué depuis 2002, c'est pour ça que vous en remettez quelques couches, comme on dit. Soit, aujourd'hui, vous êtes uniquement dans la répression, comme on vient d'en parler, quoi.
Non, parce que
vous avez échoué depuis 2002. C'est pour ça que vous essayez de passer à l'arsenal supérieur, alors.
Depuis 2002, la délinquance a baissé dans notre pays de 18%. C'est très exactement l'inverse de l'augmentation qu'avait connue la France sous la période Jospin 97-2002. Donc si on était toujours sur la tendance Jospin, il y aurait aujourd'hui 1 million de crimes et délits en plus. Donc je veux le rappeler aux socialistes qui donnent beaucoup de leçons en la matière. Nous avons, Nicolas Sarkozy a cassé la courbe de la délinquance. Mais pour autant, la délinquance évolue. C'est un combat de tous les instants. On n'est plus dans la même société. Il y a plus de violence aujourd'hui. Il y a de la violence à l'école. On ne connaissait pas ces phénomènes il y a quelques années. Il y a des bandes. Alors que faut-il faire? Soit on s'adapte, soit on utilise de nouveaux outils. C'est ce que nous faisons. Soit on reste immobile, inerte, comme le fait un peu le Parti Socialiste. Je pose une question. Est-ce que demain, si le Parti Socialiste, allez, par malheur, revenait au pouvoir, est-ce qu'ils abrogeraient ces lois? Est-ce qu'ils abrogeraient la loi contre les bandes que nous avons fait voter? Est-ce qu'ils abrogeraient les textes qui vont permettre de doter la police de moyens techniques et scientifiques? Non, ils n'abrogeront pas ces textes, parce que ces textes sont des textes qui nous permettent de nous adapter en permanence. La délinquance s'adapte, la société doit le faire. C'est ce que je propose en matière de délinquance des mineurs. On est sur la législation qui date de 1945, après la Seconde Guerre mondiale. On n'est plus dans le même cadre. Notre société, malheureusement, est plus violente. Il y a moins de repères. Il y a une crise de la discipline aussi. Il faut remettre des balises.
Mais les juges pour enfants disent qu'ils ont tout l'arsenal judiciaire à leur disposition pour pouvoir sanctionner dès qu'il faut sanctionner.
Si c'était exact, la délinquance des mineurs n'aurait pas triplé en 30 ans. Et c'est un fléau majeur.
C'est le comportement donc qui a changé.
Oui, les comportements ont changé. Il y a moins d'interdits aussi. Il y a cette évolution post-68 qui fait qu'aujourd'hui, on respecte moins l'autorité du maître à l'école, on respecte moins l'autorité parentale. Les enfants sont plus livrés à eux-mêmes, sans repères. Je crois qu'aujourd'hui, il faut leur redonner des repères. Il faut redonner le sens des interdits.
Ça, c'est pas la loi. À la limite, c'est aux parents, aux familles.
C'est ce que je propose. C'est pas la loi, justement. Vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, cette lutte, ça doit être une lutte globale qui associe la famille. Il faut remettre la famille. Beaucoup de pays l'ont fait avant nous. au cœur des dispositifs de lutte et de prévention. L'école de la République doit mieux jouer son rôle, je dirais, d'apprentissage des valeurs civiques, comme elle l'a fait pendant des siècles. Et puis, il doit y avoir l'État, un État régalien fort, la police, la gendarmerie, la justice qui sanctionne, bien sûr, et puis aussi les collectivités locales. Donc la sécurité, pour moi, c'est une chaîne. Bien sûr, c'est l'affaire de l'État, mais ça ne peut être uniquement l'affaire de l'État.
Alors, dans un instant, vous écouterez quelques réactions de personnalités qui se sont succédées justement à ce micro et qui vous interpelleront directement, comme Nicolas Dupont-Aignan qui parlait de la police, Pierre Moscovici, le député du Doubs. Vous entendrez aussi Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. C'était ce matin, dans les Grandes Gueules, il réagissait à ce que disait le ministre de l'Industrie, que vous connaissez bien, Christian Estrosi, le maire de Nice, à propos de la sanction des maires, alors des villes importantes, hein, de
bien
plus
sûr,
de 5000 habitants.
Là aussi, on a entendu beaucoup de caricatures.
Alors, écoutez Jacques Pélissard, président UMP de l'Association des maires de France.
Je suis tout à fait en désaccord avec Nicolas, avec Christian Estrosi. C'est vrai que pénaliser les maires, leur infliger des amendes, des sanctions, c'est irréaliste.
Pourquoi irréaliste ?
Irréaliste parce que nos territoires sont différents. Face à cette diversité, eh bien, seul le maire est à même de trouver des solutions de prévention de la délinquance adaptées à son territoire.
Voilà, c'est Pélissard qui est votre famille politique. Hein. Il est UMP, il dit c'est irréaliste.
Oui. J'entends la remarque de Jacques Pélissard, qui est un peu une remarque qui vient uniquement de la part des maires. Moi, je me base sur un principe simple. On est dans un pays de droit. Tout le monde doit respecter les lois de la République. Il y a des textes que malheureusement certaines communes n'utilisent pas. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a lancé début juillet un audit sur la politique de prévention des grandes communes de France. C'est ce qu'a dit Christian Estrosi. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont issus de la loi sur la prévention de la délinquance votée par Nicolas Sarkozy en 2006. Par exemple, un conseil des droits et des devoirs des familles. C'est important, notamment pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Il y a aujourd'hui à peine une dizaine de conseils des droits et des devoirs en France. C'est peu, c'est trop peu. Donc, il faut que les communes, et ce message, ce débat qu'a ouvert Christian Estrosi, c'est un bon débat. Il faut que toutes les collectivités, bien sûr, on n'est pas dans les petits villages, j'ai entendu des caricatures aussi, mais les grandes villes de France, les métropoles, les 10 grandes métropoles de France, ou les villes où il y a des problèmes de sécurité, doivent prendre leurs responsabilités. C'est ce que nous disons, et nous combattons le fait que certains maires socialistes, pas tous, il y a des maires pragmatiques, il y a des maires concrets qui mesurent la réalité du terrain, mais d'autres, comme Madame Aubry qui refuse les caméras de vidéoprotection.
Pas partout, il y en a 4000 déjà installées sur l'île et la métropole.
Pas sur la voie publique. Les caméras sont
en dans même temps, le tram, c'est la liberté de chaque, de chaque, de chaque
c'est,
maire.
C'est la liberté. C'est la liberté.
Là où il a à mettre des caméras vidéo.
C'est la liberté de chaque maire, bien sûr. C'est la libre administration des collectivités, mais en même temps, on peut pas reprocher à l'État des difficultés en matière de sécurité et ne pas assumer son rôle. Je crois que la sécurité doit être l'objet d'une mobilisation générale, y compris des maires.
Alors justement, écoutez un maire, Nicolas Dupont-Aignan. Il est maire de Hyères dans l'Essonne, où lui aussi dit, moi aussi j'ai des quartiers sensibles, la sécurité c'est quelque chose qui me préoccupe. Écoutez ce qu'il disait.
Si vous voulez que l'ordre public soit respecté en France, il faut que la loi républicaine s'applique. Il faut qu'il y ait des policiers dans les commissariats. La vraie question, c'est qu'on a démantelé depuis 10 ans l'État régalien. Et puis, il faut accepter de recruter des policiers. Mais et de conforter la police.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan s'étonnait lui-même que dans sa commune, son commissariat, donc la police nationale, était fermé en été par manque d'effectifs. Et bon nombre de maires, gauche et droite confondus, nous l'ont dit ici dans les Grandes Gueules, je n'ai pas assez de policiers nationaux, Éric Ciotti.
Écoutez, la question des moyens, c'est une question récurrente. Depuis des décennies, on en parle. Nicolas Sarkozy a permis à la police et à la gendarmerie d'avoir des moyens supplémentaires en effectif. La LOPCI 1, la loi d'orientation votée en 2002, a permis le recrutement de plus de 15 000 policiers et gendarmes. C'est important, on s'est mis à jour. Quand on regarde...
Oui, mais le ratio entre le non-remplacement et ceux qui, vous dites, on s'est mis à jour, le ratio est défavorable.
Quand on regarde avec d'autres grandes démocraties, on voit bien aujourd'hui qu'on a un bon niveau d'effectifs. Ce qu'il faut, c'est les utiliser au bon endroit, là où il y a des difficultés, et c'est l'enjeu de ce que conduit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, police d'agglomération à Paris, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de mutualiser en quelques instants tous les effectifs des quatre départements de la Petite Couronne. Demain, police des territoires avec une meilleure organisation aussi entre la police et la gendarmerie. Ce qu'a entrepris le gouvernement, c'est inédit, ce rapprochement entre la police nationale et la gendarmerie. Tout ça, une meilleure utilisation des forces mobiles.
Vous dites au maire, il y a suffisamment d'effectifs, mais il y a peut-être une mauvaise répartition.
Non, je dis globalement, notre pays...
Qu'est-ce que vous leur dites aux maires comme Nicolas Dupont-Aignan qui ont des commissariats fermés par manque d'effectifs? Que leur dites-vous?
Je suis pas sûr que monsieur Dupont-Aignan soit totalement objectif dans ses critiques. Il se situe dans l'opposition. Ferme au gouvernement. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'adapter à la réalité du terrain. C'est l'enjeu de nouvelles formes d'organisation. Police d'agglomération à Paris, demain sans doute autour de Marseille, autour des grandes agglos. Police des territoires, là aussi, avec une meilleure organisation entre la gendarmerie et la police. C'est l'enjeu de la loi d'orientation dont je suis le rapporteur. Bien sûr, il faut s'adapter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des problèmes, il y a des problèmes thématiques, la lutte contre les stupéfiants, il y a des problèmes sur des territoires. Il faut être réactif, la guerre contre la délinquance, c'est une guerre de mouvement.
Alors, on parle beaucoup de police de proximité, vous répondez avec UTQ, hein, c'est ça, UTEC, les UTER, pardon, ce sont les unités territoriales de quartier. Il devait y en avoir 110 en 2010, on en a 35.
Le ministre,
35 installés, donc il y a une défaillance.
Le
là.
Ministre de l'Intérieur a évalué ce dispositif, qui a donné des résultats contrastés, et il a décidé de s'engager résolument dans l'implantation de ces UTEC. C'est quoi les UTEC? C'est des policiers qui sont implantés dans les quartiers, mais ce sont aussi des policiers qui conduisent des enquêtes, qui vont interpeller, contrairement à la police de proximité. On entend ce débat ahurissant sur la police de proximité en disant « on a supprimé la police de proximité ». C'était quoi la police de proximité? C'était des policiers chargés de la prévention qui allaient jouer au foot avec les délinquants dans les quartiers.
C'est un peu caricatural
quand
même.
C'est pas possible, c'est pas le rôle de la police. La police, elle a une mission régalienne. Elle a une mission, c'est de faire respecter de la loi et d'interpeller ceux qui ne respectent pas la loi.
Mais elle a aussi une mission de proximité avec la population, de connaître cette population dans laquelle qui vit, dans les quartiers où la police est implantée aussi. Donc,
bien sûr, mais on peut pas mettre en permanence pendant des décennies des policiers dans le même quartier. On voit bien ce qui s'est passé à Grenoble où des policiers ont été menacés. Qu'en serait-il si c'était simplement des gardiens de la paix qui seraient connus des délinquants tous les jours? On voit bien que cette politique, elle ne peut pas marcher partout, parce qu'elle menacerait les policiers. Donc les UTEC, ce sont des unités organisées avec de la police judiciaire, de l'investigation. Il y a du renseignement, de la présence sur le terrain et de l'investigation.
Il y en a 35 au lieu de 110 en 2010. Il vous reste 6 mois pour en mettre encore, donc il faut faire le calcul, 180.
C'est le rythme d'installation 175. Qu'a prévu le ministère de l'Intérieur d'ici...
Donc il y aura les 110 installés d'ici la fin de l'année.
La mi-2011, dans les principaux points qui sont aujourd'hui l'objet de menaces, il y aura l'installation de ces UTEC, mais je veux dire aujourd'hui qu'on ne part pas de rien. Il y a une organisation sur le terrain qui est efficace, il y a les BAC, il y a les groupements d'intérêts régionaux, les GIR, il y a le recrutement de 64 inspecteurs du fisc qui vont aider la police dans les quartiers pour traquer les éléments de train de vie, parce qu'il est anormal que certains délinquants roulent avec des voitures que quelqu'un qui travaille toute sa vie ne pourrait se payer. Tout ça, c'est une mobilisation globale, donc on avance avec des résultats importants, notamment sur le trafic de drogue.
Justement, à ce propos des trafics, des économies parallèles, j'en parlais ici dans les grandes gueules avec des maires socialistes qui disaient, nous on fait les signalements. On est d'accord avec Brice Hortefeux pour dire qu'effectivement il y a trop de délinquance et que on est d'accord avec Brice Hortefeux pour dire qu'il n'est pas normal que certains vivent de cette économie parallèle avec des Ferrari. Ils le voient, ils le constatent, ils font des signalements, mais ils disent, on n'a pas nous les moyens d'intervenir. Donc, quand est-ce que ces maires auront aussi les moyens de lutter contre ces foyers de délinquance qui vivent avec des moyens complètement illégaux? Claude Dillin m'en parlait, ici Gilbert Roger, le maire socialiste de Bondy. On alerte, mais on n'a pas les moyens d'agir.
Justement, les moyens, ils sont mis en place aujourd'hui. Cette collaboration des services fiscaux, sociaux aussi, pour traquer les fraudes, pour recouper les fichiers, les éléments de train de vie vont être détectés avec plus d'ampleur. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. La loi que nous allons voter en septembre permet permettra la saisine de véhicules, et non seulement la saisine de ces véhicules, mais leur transfert immédiat aux forces de police. Aujourd'hui, on était dans une situation où on saisissait les véhicules, mais il fallait attendre la fin de, d'un procès pour que ces véhicules soient vendus ou donnés à la police. Là, on pourra le faire immédiatement, donc on va aller plus vite, on va aller plus fort, mais je crois qu'il est important de souligner quelquefois que ce qui se passe dans les quartiers, on a le sentiment de dire c'est la réaction de certains jeunes. Non, c'est des ramifications qui viennent d'une criminalité organisée. On part des réseaux de trafic de drogue au Maghreb ou en Colombie et qui se prolongent jusque dans nos quartiers, qui utilisent des jeunes, quelquefois de 12 à 16 ans, qui sont des guetteurs, qui alertent quand la police arrive. Donc on est au sein de criminels, de réseaux de criminalité organisée, et c'est pour ça d'ailleurs que quand le ministre de l'Intérieur a lancé cette guerre contre la drogue depuis le début de l'année, il y a eu ces réactions, les caillassages de bus à Sevran, ce qui s'est passé à Grenoble aussi. Finalement, il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière, et il y a des réactions, parce que quand on gêne les trafics, quand on perturbe ces commerces illégaux, on utilise les jeunes, quelquefois pour des pseudo-émeutes urbaines. Ce ne sont pas des motivations sociales qui sont à la base de ces émeutes. C'est parce qu'on a perturbé des trafics beaucoup plus lourds, beaucoup plus graves, qui utilisent les jeunes et qui les exploitent. Et c'est ça que nous voulons combattre en priorité.
Éric Ciotti, dans un instant, vous répondrez aux accusations ou réactions de Daniel Cohn-Bendit dans le quotidien Le Monde. Vous écouterez Aïssatou pour reparler de la déchéance de la nationalité. Marianne Montchamp aussi est députée de la majorité, certes proche de Dominique de Villepin, qui voulait vous interpeller. C'est une petite question qu'on lui a posée tout à l'heure. On va faire votre CV express, Éric Ciotti, puisqu'on ne déroge pas la tradition dans les GG. Nom, prénom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît.
Éric Ciotti, né le 28 septembre 1965 à Nice.
Situation de famille.
Je suis marié, j'ai une petite fille qui a 10 mois.
Profession.
Je suis aujourd'hui député des Alpes-Maritimes et président du Conseil Général. Je ne sais pas si c'est une profession, c'est en tout cas une mission et un mandat, deux beaux mandats que j'assume avec beaucoup de responsabilité et de fierté.
Les revenus ?
Les revenus, ce sont ceux de tous les élus, plafonnés, c'est-à-dire aujourd'hui un peu plus de 7000 euros nets entre parlementaires et président de Conseil Général.
Éric Ciotti dans les Grandes Gueules, à tout de suite.
RMC, Alain Marchal et les Grandes Gueules.
Éric Ciotti, le monsieur sécurité de l'UMP, député des Alpes-Maritimes, président du Conseil Général de ce même département et dans les GG. Aïssatou, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue sur RMC, vendeuse en prêt-à-porter. Vous êtes dans l'Essonne et vous vouliez interpeller monsieur Ciotti sur la déchéance de la nationalité française.
Oui, alors monsieur Ciotti, ça fait un moment que je voulais vous poser une question. Bon, moi, déjà, d'abord, depuis le débat sur l'identité nationale, je ne me sens plus française du tout, vu qu'on remet régulièrement en cause les Français d'origine étrangère. Et après le discours de Grenoble, honnêtement, aujourd'hui, si j'avais les moyens, je quitterais ce pays. Moi, quand vous me dites que les Français, dès qu'un Français d'origine étrangère commet un crime, alors il sera condamné. Normal, il aura une peine de prison, mais en plus, il va être déchu de sa nationalité. J'aimerais savoir, vous faites quoi de les Français dits de souche qui commettent les mêmes crimes? On va faire quoi d'eux? On va les emmener, on va les expatrier dans un autre pays, ou dans ce pays, apparemment, il y a deux Français de... d'une autre zone, quoi. J'aimerais savoir.
Éric Ciotti, réponse à Aïssatou.
Là aussi, on dit beaucoup d'erreurs dans ce débat. Qu'a dit le président de la République? Qu'une personne qui porterait atteinte, qui tirerait sur un policier, sur un gendarme, qui vient d'acquérir de façon récente la nationalité.
Moins de 10 ans.
J'insiste là-dessus. Aujourd'hui, la loi. Parce qu'il y a des cas de déchéance qui existent aujourd'hui, notamment pour les personnes qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et qui ont acquis la nationalité depuis moins de 10 ans. Mais il y a aussi des personnes qui sont condamnées, on le sait moins, pour corruption, pour concussion. Il y a donc des cas dans la loi qui ont déjà été examinés par le Conseil constitutionnel qui existent. Le président de la République a dit simplement qu'une personne qui venait d'acquérir la nationalité, le secrétaire général de l'Élysée a précisé ensuite, c'est dans un délai en gros de 2 ans. Ça veut dire qu'une personne qui fait une démarche pour devenir français, donc pour épouser les lois de la République, c'est-à-dire que quand on veut devenir français, on doit en manifester l'intention et donc on doit respecter les lois de la République. Si cette personne sincèrement tire sur un policier, eh bien oui, on doit pouvoir, dans les 2 ans, en gros, c'est un délai qui me paraît raisonnable, lui enlever la nationalité.
Et on l'expulse du coup alors aussi. Est-ce qu'elle redevient une personne en situation irrégulière?
Ça ne concernerait pas les personnes qui sont
apatrides. Ça va concerner combien de personnes?
Apatrides. Mais c'est un message républicain.
C'est bizarre parce que c'est le président Sarkozy qui a supprimé la double peine et qui l'a rétabli une double peine en fait. On a du mal à comprendre la cohérence là.
Non, la cohérence elle est profonde au contraire. Parce qu'on dit quoi? Quand on veut devenir français, on doit respecter les lois de la République. Devenir français, ce ne doit pas être automatique, ce n'est pas une formalité administrative,
oui.
C'est une adhésion, c'est adhérer à ce pacte républicain qui fait la force de notre démocratie. Vous disiez tout à l'heure, je voudrais partir de France. Cette France, c'est un beau pays, elle donne beaucoup de droits.
Mais cette fois, elle en a assez qu'on lui renvoie son origine aussi,
oui,
en travers la figure.
Elle accueille des demandeurs d'asile, c'est le pays au monde, un des pays au monde qui accueille le plus de demandeurs
c'est
d'asile.
C'est le pays où on a lié immigration et délinquance ces dernières semaines
voilà.
aussi.
C'est un pays qui offre beaucoup de droits aux personnes étrangères et je dirais que c'est légitime. Mais en même temps, en face de ces droits, il faut convenir qu'il y ait des devoirs parce qu'il y a aujourd'hui des situations qui ne sont inacceptables. Et ce qu'a voulu dire le président de la République, c'est qu'on ne touche pas un policier. C'est un symbole intangible.
Tout le monde est d'accord, même Aïssatou est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça, Éric Ciotti.
Alors si tout le monde est d'accord, appliquons-le sans polémique.
Mais alors,
je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir polémique.
Pourquoi le lier au fait d'être étranger ou d'acquérir la nationalité? C'est un acte de délinquance qui doit être puni par la loi comme il se doit, et point barre.
Mais qui doit être renforcée pour les étrangers qui ont demandé la nationalité depuis peu parce qu'ils ont trahi ce contrat de confiance qui doit les unir
avec la France. Et ça, tu disais, pour les Français de souche, aussi trahi, peut-être même doublement. Mais alors
là, il y a des textes, il y a des lois, le code pénal s'applique, mais non, nous disons que une personne qui fait la démarche pour devenir français a peut-être plus de devoirs que d'autres parce qu'elle doit faire la preuve qu'elle s'intègre aux lois de
donc,
la République.
Il y a deux catégories de Français, en fait, comme le disait Aïssatou. Il y a ceux qui doivent en faire plus que les autres, alors.
Non,
vas-y, c'est ce que vous dites.
Absolument pas.
Vous dites, on acquiert la nationalité, ça donne des devoirs, on doit son attachement.
Bien sûr. Quand on acquiert récemment la nationalité, ça veut dire qu'on fait un acte volontaire. Tout le monde peut le comprendre. C'est quand même une question de bon sens. Quand on va dans un pays, qu'on veut acquérir la nationalité de ce pays, quand même, la moindre des choses, c'est de respecter les lois de ce pays et de respecter, bien sûr, ceux qui sont détenteurs de l'autorité de la loi.
C'est pour tout le monde.
C'est-à-dire la police et la gendarmerie.
Vous faites deux catégories de Français.
Non, parce que ceux qui deviennent, une fois de plus, Français par l'acquisition de la nationalité depuis peu, doivent pouvoir se voir sanctionnés en remettant en cause leur nationalité s'ils n'ont pas respecté ce contrat. Il y a quelque part une période probatoire. On devient français, on respecte les lois de la République.
Et
si on ne respecte pas ces lois
France,
pendant 2 ans, pour des cas très graves,
Pour ceux qui sont nés en France.
Je le souligne, le débat n'est pas le même. Ceux qui sont nés en France, ils sont français. Ceux qui sont nés en France, ils sont français. Ils sont soumis aux lois auxquelles sont soumis.
Donc il n'y aura pas de déchéance pour eux.
Absolument pas.
Voilà.
Non, mais voilà, président de la République aurait dû préciser. Son discours, on a entendu ceux qui étaient français d'origine étrangère et naturalisés. Savez très bien que maintenant, il faut attendre, même nous qui sommes français d'origine étrangère, pourtant qu'ils sont nés en France, il faut qu'on attende 18 ans pour choisir la nationalité qu'on a décidé de prendre.
Voilà.
Vous savez très bien. Donc, ces gens-là qui font un crime 2 ans après, Donc ils perdent leur nationalité. Et pour ceux qui sont français de nationalité, qui sont nés en France, mais qui leurs parents sont également nés en France, on fait quoi pour eux?
Je crois que et d'abord... Donc,
pour... Voilà, c'est ça que je comprends pas.
Alors attendez, Aïssa Tou, réponse d'Éric Ciotti.
Excusez-moi, mais le plus simple, c'est de ne pas commettre de crime. Hein, qu'on soit français... ou qu'on soit étranger, ou qu'on ait acquis récemment la nationalité, il y a un message, et c'est celui qu'a voulu rappeler le président de la République, c'est qu'on ne touche pas un policier, on ne touche pas un gendarme, on ne touche pas à ceux qui sont détenteurs de l'autorité de la nation. Parce qu'un pays où il n'y a plus de règles, et où ceux qui sont chargés de faire appliquer les règles deviennent des cibles, n'est plus une démocratie. Donc avant tous ces débats, moi je dis quelque chose de bon sens, on respecte la loi de la République, qu'on soit étranger, qu'on soit français ou qu'on vienne d'acquérir récemment la nationalité.
Et alors, il faudra aussi qu'il y ait de l'exemplarité aussi pour les hommes politiques qui derrière bien peuvent sûr. Éventuellement déraper, mais qui retrouvent leur siège ou sont réélus dans ces cas-là. Peut-être pour ceux qui ont été mis en examen ou condamnés, ils ne devraient plus du tout se représenter à un mandat aussi. Il faut que l'exemple vienne d'en haut aussi,
Éric Ciotti. Ceux qui sont condamnés, il y a des textes très sévères aujourd'hui dans le code pénal qui empêchent ceux qui ont franchi la ligne jaune de la République de se représenter. Je suis d'accord avec vous, l'exemplarité, elle doit venir d'en haut. Et
parce qu'à la limite, on pourrait dire qu'un Alain Joyandet ou un Christian Blanc qui ont fait des bêtises retrouvent des sièges de députés, donc c'est quand même bizarre, alors qu'ils n'ont pas été très exemplaires. Écoutez, ils n'ont pas été exemplaires dans leur responsabilité politique non plus.
Ne caricaturons pas. Il y a des erreurs qui ont été commises. On n'est pas dans le cas de délit. Là, la sanction, elle sera électorale. On est dans une démocratie, ça sera aux électeurs de juger, parce que ne confondons pas les juges et les électeurs. D'ailleurs, trop souvent, il y a ce mélange des genres. Il y a le code pénal et puis il y a le code électoral. Ceux qui ont franchi certaines limites du bon comportement, et moi je condamne totalement ce qu'a pu faire Blanc, c'est scandaleux, ces cigares achetés sur le dos de la République. Mais ça, je dirais, ça sera à ces électeurs de juger le moment venu. Je pense qu'ils le jugeront sévèrement.
Alors, écoutez, deux réactions. Pierre Moscovici, le député socialiste du Doubs, et Marianne Montchamp, députée de la majorité, proche de Dominique de Villepin. Éric Ciotti, c'est pour vous écouter.
Je crois que Nicolas Sarkozy a flirté vraiment avec l'extrême droite, qu'il l'a fait de manière tout à fait consciente. Je crois que Nicolas Sarkozy a commencé son quinquennat par l'ouverture à gauche et qu'il est assez tenté de le finir par l'ouverture à une extrême droite républicanisée ou relookée. Car c'est vrai, il fait du Le Pen Light.
Et en vogue à l'UMP et au gouvernement, c'est de faire barre à droite toute en cajolant un socle très droitier de l'UMP. Le problème, c'est que l'UMP ne se résume pas à ce socle droitier. À l'UMP, moi je peux vous dire que je les fréquente tous les jours à l'Assemblée, j'ai plein de collègues qui vivent très mal, comme une blessure, chaque fois qu'on porte atteinte effectivement à ce socle républicain. Je pense qu'en faisant le choix de proposer un coup de barre à droite toute, le président de la République privilégie une partie de son électorat, mais une partie seulement.
Alors Éric Ciotti, vous faites de l'électoraliste qui flirte avec le Front National et qui ne plaît pas à certaines couches de l'UMP.
Tout ça, ce sont des commentaires assez dérisoires de personnes qui sont engagées dans un combat contre le président de la République, et peut-être en premier lieu Madame Montchamp. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans la fidélité à la ligne près au mandat que nous ont donné les Français en 2007. Ce qui compte dans la politique aujourd'hui, c'est de faire ce pourquoi on a été élu. Moi, je crois à la fidélité des engagements. Est-ce que Nicolas Sarkozy, en 2007, n'a pas été élu sur le programme qu'il applique aujourd'hui avec beaucoup de détermination? Est-ce qu'il n'a pas mis en place ce ministère de l'immigration pour vouloir une immigration choisie et non subie? Est-ce qu'il n'a pas fait de la sécurité une des priorités d'action? Ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons dit, nous l'avons toujours dit, on est au contraire dans la vérité de ce que nous avons promis aux Français, ce sur quoi on s'est engagé. Généralement, les Français avaient l'habitude d'un gouvernement qui faisait le contraire de ce pourquoi il avait été élu. On a été élu pour régler des problèmes. Alors, il y a des problèmes d'immigration, il faut les traiter sans tabou. Il y a des problèmes de sécurité, il faut les traiter sans tabou, sans idéologie.
Pour conclure, il y avait la question GG de Jacques Maillot, mais je vais la prendre dans ma voix. Et Jacques, voulait vous demander, Éric Ciotti, est-ce que vous voulez, dans le prochain remaniement gouvernemental, qu'on en termine avec l'ouverture Et est-ce que vous verriez bien ministre de l'Intérieur, un tandem avec Christian Estrosi? Fin de l'ouverture et un tandem Estrosi à l'Intérieur?
Aujourd'hui, il y a un très bon ministre de l'Intérieur qui s'appelle Brice Hortefeux, qui est mon ami, que je soutiens. Et je souhaite qu'il conduise longtemps cette politique de fermeté aux côtés du président de la République. Pour le président de la République de fixer
vous voulez en terminer avec l'ouverture?
Ce cap. Non, je crois que le pays, la France, c'est pas ou l'ouverture ou la fermeture. Qui peut prôner une politique de fermeture? Nous devrons au contraire être tous rassemblés. J'appelle au rassemblement républicain, comme a pu le faire Christian Estrosi ce week-end, sur les questions de sécurité. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y ait ces divisions sur la sécurité, parce que tout le monde devrait être d'accord pour lutter contre la sécurité. La sécurité.
J'empiète sur 30 secondes sur les informations de Véronique Verdun, elle ne m'en voudra pas, mais Daniel Cohn-Bendit fait la une du Monde en disant Nicolas Sarkozy prend les Français pour des cons avec une politique populiste. Qu'est-ce que vous répondez au leader d'Europe Écologie?
Il est bien placé pour parler de populisme, il sait de quoi il parle, il en fait au quotidien, donc c'est dérisoire.
Éric Ciotti, merci.